Je précise, je rappelle que l'étude que nous faisons de la messe est une étude qui se veut théologique. Donc, parfois, ça peut être un peu difficile, je le comprends bien, mais parce que certains me posent parfois des questions, mais quand est-ce que vous allez nous parler de la nouvelle messe? Quand est-ce que vous allez nous parler de... Pourquoi? Je ne dis pas que je n'en parlerai pas, mais ce n'est pas le but de mes conférences. J'essaie plutôt de vous donner uniquement un aliment plus substantiel pour que vous compreniez mieux ce grand mystère de la messe, que vous l'aimiez davantage peut-être, ce qui est la meilleure réponse à faire, je crois, à tous ceux qui s'attaquent ou qui veulent remplacer, changer le rite de la messe. Ouais. Donc, je ne dis pas que je n'en parlerai pas, peut-être à la fin, s'il reste du temps, mais enfin... Nous verrons. Voilà, donc nous avons vu un peu, nous avons commencé un peu à essayer de situer où se situait le mystère. Il y a encore un autre aspect du mystère dont je n'ai pas, ou que j'ai à peine évoqué, je crois, la fois précédente, mais qui est importante et qui peut peut-être un peu vous intriguer, je ne sais pas si vous posez la question, mais c'est le mystère de cette présence simultanée de notre Seigneur Jésus-Christ et de son sacrifice à la messe. Oui, présence simultanée dans la même hostie, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire glorieux, et puis la présence sacrificielle, immolée, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là un des aspects du mystère qui n'est pas le plus simple. Car il faut bien comprendre que chaque fois que le prêtre prononce les paroles de la consécration, il rend Jésus-Christ présent tel qu'il est actuellement. Et quand notre Seigneur s'est rendu présent lui-même dans l'hostie, le soir de la scène, il s'est rendu présent tel qu'il était actuellement, tel qu'il était. Donc, un corps vivant, âgé de 33 ans, etc., et passible, et qui allait vers la mort. Ouais. L'hostie qui était donc consacrée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'était lui-même tel qu'il était à ce moment-là. L'hostie que nous consacrons actuellement, bien, se rend présent Jésus-Christ tel qu'il est actuellement. Or, actuellement, comment est Jésus-Christ? Il est glorieux. Il est ressuscité, il est monté aux cieux, il est dans le ciel, il est glorieux. Et l'hostie, en fait, l'hostie est glorieuse. C'est extraordinaire, ça, quand on y pense. C'est le ciel qui est là devant nous, c'est vrai. Et saint Thomas d'Aquin même se pose la question, enfin, ou du moins, il répond plutôt. Vous voyez, s'il était arrivé que les apôtres, s'ils avaient eu l'idée de consacrer, de célébrer la messe, entre le moment de la mort du Christ et de sa résurrection, eh bien, ils auraient rendu présent un cadavre. Enfin, non, pas un cadavre, non, c'est pas tout à fait le mot, mais ils auraient rendu présent le corps de Jésus-Christ dans l'hostie, mais sans son âme. Puisque son âme n'était plus unie à son corps à ce moment-là, voyez. Et ils auraient rendu ensuite présent dans le calice le sang de Jésus-Christ, mais sans son âme non plus. Oui, c'était donc, ils auraient rendu présent notre Seigneur tel qu'il était à ce moment-là. Et donc, nous rendons présent, lorsque le prêtre consacre l'hostie, lorsqu'il consacre le vin, eh bien, c'est Jésus-Christ tel qu'il est actuellement. Or, Jésus-Christ est glorieux. Alors, comment? Bon, rapidement, ça mériterait toute une conférence aussi, cela, mais enfin, rapidement. Je crois ce qu'il faut pour essayer de comprendre un peu cet aspect du mystère, c'est distinguer ce qu'on appelle la présence substantielle de l'être de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis la présence efficiente ou opérative, donc selon l'agir, oui, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu la distinction que l'on fait quand, dans le catéchisme, on apprend aux enfants que Dieu est partout, par sa présence, par sa puissance et par son essence. Vous savez cela, bien sûr, hein. Dieu est partout par sa présence, parce que tout est présent à ses yeux. Il est présent à toute chose, il voit tout, non, ça va bien. Donc il est présent, c'est un mode de présence de Dieu, il voit tout, tout est soumis, c'est, tout est sous son regard. Il est présent, il est en toute chose par sa puissance, parce qu'il est la cause, il est le créateur, et il soutient tout ce qui est par sa puissance précisément. Donc partout où il agit, eh bien il est d'une certaine façon, hein, comme nous tous, partout où nous agissons, eh bien nous disons que nous sommes, par notre puissance, donc par notre action. Et il est présent également par son essence, hein, à savoir que tout tient son être de lui-même. Oui, et bien c'est un peu à cela, je crois, qu'il faut nous référer pour comprendre un peu ce mode de présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'hostie, à la messe. Oui. Au calvaire, par exemple, notre Seigneur était donc présent substantiellement selon son être sur la croix. C'est clair, ouais. Mais il était présent d'une certaine façon également dans l'âme, eh bien, de ceux qui s'unissaient à son immolation. Il était présent dans l'âme de sa mère, dans l'âme de Saint Jean. Il exerçait une action très, très puissante, certainement, dans l'âme des témoins de son immolation. Ouais. À la scène, il était présent substantiellement, donc en lui-même, bien sûr, il était donc selon son être propre. Il était présent également dans l'Eucharistie, dans l'hostie qu'il venait de consacrer, dans le calice qu'il venait de consacrer. Ça, c'était, si vous voulez, alors à la scène, il y avait deux présences substantielles du Christ. Là, c'est un autre mystère dont nous avons parlé, mais ça, c'est le mystère de l'Eucharistie, hein. Nous avons la même substance dans toutes les hosties. C'est le même Christ, il y a plusieurs Christ. Le Christ ne se multiplie pas selon les hosties, c'est le même qui est présent dans toutes les hosties. Bon. Un aspect du mystère, ouais, de cette présence par mode de substance. Ouais. Et il était présent également selon une certaine opération, selon une certaine efficience, et bien dans l'âme des apôtres. Mais il exerçait certainement une action très, très puissante dans l'âme des apôtres qui étaient présents à la scène. Et à la messe, eh bien, c'est un peu la même chose, donc il faut appliquer le même principe. Il y a la présence substantielle du Christ glorieux, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est donc actuellement dans le ciel, dans l'éternité. Et puis il y a cette autre présence, donc plus efficiente, opérative, voyez, de l'acte rédempteur du Christ. Voyez. Chaque messe multiplie... Si vous voulez, la présence efficiente, l'efficience, l'opération de l'unique sacrifice. Il n'y a qu'un sacrifice, mais ce sacrifice multiplie, si vous voulez, ses présences opératives efficientes. Et saint Thomas d'Aquin dit, par exemple, « La vertu de cette hostie, offerte une seule fois, demeure éternellement. » Et la vertu de l'hostie, qui n'a été offerte qu'une seule fois, cette vertu, elle demeure éternellement, elle est éternelle, cette vertu. Cette vertu, elle est infinie, voyez, et elle peut très bien s'appliquer aussi souvent, aussi longtemps que Dieu le voudra. Voyez. C'est donc l'application de la vertu de l'hostie qui se fait. Voyez, dans la gloire, notre Seigneur est toujours prêtre. Dans l'éternité, notre Seigneur est monté aux cieux. Il exerce toujours son sacerdoce. Son sacerdoce est éternel, nous dit saint Paul. Son sacerdoce est un sacerdoce éternel, et donc notre Seigneur exerce toujours en acte son sacerdoce. De quelle façon l'exerce-t-il, ce sacerdoce, dans l'éternité, dans la gloire? Eh bien, en présentant déjà à son Père, cette présentation éternelle à son Père, de son unique acte rédempteur. Cet acte rédempteur qu'il a posé, qu'il a réalisé sur la croix, eh bien, il le présente éternellement à son Père. Et ça, c'est une façon d'exercer son sacerdoce, de présenter cet acte rédempteur. Et également, vis-à-vis de nous, il dispense les fruits de cet acte rédempteur. Il distribue donc les fruits de cet acte. Donc il présente son acte rédempteur et il en distribue les fruits. Et bien sur l'autel, notre Seigneur fait ce qu'il fait dans l'éternité. Il fait ce qu'il fait dans la gloire. Il ne fait rien d'autre que ce qu'il fait dans la gloire. Et donc il est présent avec son acte rédempteur, qu'il présente à son Père, comme il le fait dans l'éternité. Il présente à son Père, eh bien, cet acte de charité infinie qu'il a posé sur la croix. Et dans le même temps, bien, il distribue à tous les fidèles, à tous les hommes, eh bien, les fruits de cet acte. Voyez. Donc il y a présence du Christ glorieux, mais le Christ glorieux, il n'est pas séparable de son acte rédempteur. Il ne peut pas s'en séparer. Voyez. Il le présente éternellement à son Père et il en distribue éternellement les fruits. Et donc, dans l'Eucharistie, notre Seigneur est glorieux, mais il exerce encore son sacerdoce par la présentation de l'acte rédempteur et par la distribution, la dispensation des fruits de cet acte. Ce qui fait que chaque homme et chaque génération qui passe et qui passera jusqu'à la fin des temps peut ainsi entrer dans la passion du Christ, dans l'acte rédempteur, peut entrer en contact avec l'acte rédempteur du Christ. Oui, qui n'est pas un contact temporel, bien sûr, hein. Nous ne sommes pas présents au calvaire tel qu'il s'est déroulé il y a 2000 ans, mais c'est une présence de contact spirituel et qui est tout aussi réel, hein. C'est un contact qui est réel, ce n'est pas parce que c'est spirituel, il faut toujours nous méfier de cela. Quand on parle de spirituel, bien souvent on s'imagine un truc irréel. Non, ce qui est spirituel est parfaitement réel, hein. L'esprit, notre esprit, il est parfaitement réel, notre âme, elle est réelle. Elle est spirituelle, mais elle est plus réelle même que notre corps, puisque notre âme survivra à notre corps. Donc notre âme a plus de réalité que notre corps. Hein. Et donc ce contact spirituel de chaque homme et de chaque génération s'établit avec l'acte, l'unique acte rédempteur. Hein. Et cet acte rédempteur, bien sûr, qui est difficile à discerner, tout cela est de l'ordre mystérieux, sacré, secret, mystique, eh bien, cette présence de l'acte rédempteur est enveloppée, justement, dans un rite non sanglant, un rite sacramentel, qui rend accessible à nos natures sensibles, justement, cette réalité secrète, cachée, de l'acte rédempteur, cet acte éternel, caché, secret, cet acte rédempteur, donc, auquel nous ne pourrions pas accéder. Eh bien, il est enveloppé justement par ce rite sacramentel qui essaie d'adapter le mystère à nos sensibilités. Et ça, c'est ce que malheureusement ne comprennent pas, je pense, les réformateurs, hein, de Vatican II ou autres. Ils ignorent, ils prétendent avoir le culte de l'homme, peut-être l'ont-ils, mais ils ignorent complètement ce qu'est la réalité de l'être humain. L'être humain qui est fait de chair et d'os et de sensibilité et qui a besoin de rites sensibles pour accéder à l'invisible, pour accéder au secret, au mystère de Dieu. Et ces rites sensibles doivent s'adapter à notre nature. Notre pauvre petite nature qui est corporelle, qui est physique, qui est sensible, eh bien, il faut venir nous chercher dans ce que nous sommes. Et c'est ce qu'a toujours très bien compris l'Église, justement, qui a su justement, adapter, perfectionner et peut-être même, je dirais, faire évoluer d'une certaine façon les rites de sa liturgie, bien pour les adapter bien justement aux générations, pour que chaque homme puisse entrer en contact avec le mystère, hein, le secret caché en Dieu. Voici ce que dit un beau texte de Bossuet, hein, sur cette question-là, qui je crois résume très bien cela dans son explication de quelques difficultés sur les prières de la messe qu'il dédiait à un nouveau catholique. Voici ce qu'écrivait Bossuet. Ce n'est donc pas ici, comme vos ministres vous le faisaient croire, donc les protestants, ce n'est pas ici un supplément du sacrifice de la croix. Ce n'en est pas une réitération, comme s'il était imparfait. C'en est au contraire, en le supposant très parfait, une application perpétuelle semblable à celle que Jésus-Christ en fait tous les jours au ciel aux yeux de son Père. Oui. Donc une application perpétuelle semblable à celle que Jésus-Christ en fait éternellement, donc tous les jours, aux yeux de son Père. Ou plutôt, c'en est une célébration continuée. De sorte qu'il ne faut pas s'étonner si nous l'appelons en un certain sens un sacrifice de rédemption, conformément à cette prière que nous y faisons, accordez-nous au Seigneur de célébrer saintement ces mystères, parce que toutes les fois qu'on fait la commémoration de cette hostie, on exerce l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire qu'en l'appliquant, on la continue et on la consomme. Et en appliquant la rédemption, on continue la rédemption et on la consomme. Oui. Dans cela, bien que ce sacerdoce du Christ est éternel et il ne s'achèvera, s'il peut s'achever, si on, du moins sous cet aspect de l'application des fruits, et bien que quand le dernier élu sera entré dans le paradis. Mais il y aura toujours, au moins, même après, la présentation éternelle que notre Seigneur fera à son Père de son acte rédempteur. Et en cela, bien, ce sacerdoce de Christ sera éternel. Et c'est cela que donc, eh bien, on applique à chaque célébration de la messe. C'est pour ça que la messe est éternelle, la messe ne s'arrête pas. Nous la répétons selon son rite sacramentel, mais selon son essence, oui. La messe est éternelle, elle ne peut pas s'arrêter puisqu'elle est dans l'éternité. Oui. Bon, voilà un petit complément donc à ce dont nous avions parlé. Et ce soir, donc, je vous avais annoncé l'offertoire. En fait, ce ne sera pas vraiment l'offertoire dont je vous parlerai, mais enfin, c'est non pas l'offertoire selon son déroulement liturgique, mais c'est l'aspect justement où la messe, et nous parlerons la prochaine fois justement de son aspect, l'immolation, donc la transsubstantiation, le sacrifice, qu'est-ce qui fait l'essence du sacrifice. Donc ce soir, ce sera plutôt justement l'aspect plutôt offrande de la messe. Et ce sacrifice que nous allons réaliser, il s'agit de l'offrir. On ne fait pas un sacrifice si ce n'est pas pour l'offrir. Hein. Rappelez-vous ce que nous avons dit. Toute oblation n'est pas une immolation, mais toute immolation est une oblation. On peut offrir quelque chose que l'on n'immole pas. Je peux prendre un livre et puis je vous l'offre. Bon, il n'y a pas d'immolation, c'est une offrande, c'est une oblation, très bien. Mais si l'on fait une immolation, cette immolation, elle est essentiellement, si vous voulez, en vue de l'oblation. Hein, on immole pour offrir à Dieu, pour apaiser sa colère, satisfaire sa justice, lui rendre grâce, tout ce que l'on voudra. Mais cette immolation, elle a une finalité, vous voyez, d'offrande. Donc c'est ce côté-là que nous envisagerons ce soir, cet aspect donc d'offrande de la messe. Hein. Alors là aussi, bien sûr, on peut dire un tout petit mot pour commencer sur le déroulement liturgique de la messe. Il est certain que l'offertoire précède l'immolation, donc le sacrifice proprement dit, mais cela c'est dû tout simplement à notre pauvre situation d'êtres humains compliqués qui sommes dans le temps. Et donc, puisque l'offrande proprement dite sera faite lorsque le Christ sera immolé, mais il s'agit au préalable de fixer un peu quelle est la finalité, justement, dans quel but on va faire cette offrande. L'offrande réelle sera faite quand le Christ sera immolé, mais à quoi, quel sera le but, quelle sera la finalité, quelle sera l'intention, oui, de l'Église, du ministre, du prêtre, lorsqu'il aura réalisé cette immolation. Donc, c'est pourquoi les prières de l'offertoire, eh bien, déjà, offrent à Dieu le pain, le vin, mais en fait ce n'est pas vraiment le pain et le vin, nous en reparlerons peut-être, que l'on offre à Dieu. Ce qu'on offre, c'est ce qu'ils vont devenir. Et les prières de l'offertoire le disent de façon très claire. Hein. Très claire, ça, nous en reparlerons tout à l'heure, hein, nous verrons. C'est pourquoi certains ont accusé pour réformer le rite de l'Église ces prières de former des répétitions, des doublés, etc. Mais c'est faux, c'est là aussi, c'est une incompréhension. De la pensée de l'Église, vous voyez, dans ce rite-là. L'Église, d'abord, eh bien, fixe l'intention qui sera la sienne au moment où elle offrira le Christ immolé. Et à ce moment-là, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Lorsque le prêtre pratiquera l'immolation du Christ, il ne peut pas en même temps, si vous voulez, exprimer l'offrande. Donc, on exprime l'offrande avant. On fixe l'intention de l'offrande avant. Et c'est très important. Et c'est sans doute ce rite s'est-il développé, a-t-il évolué, s'est-il enrichi, peut-être de façon un peu tardive, cela peu importe, oui. Mais il s'agit précisément que l'intention dans laquelle je vais réaliser le sacrifice soit déterminée avant que le sacrifice soit réalisé. Et ça, c'est fondamental, c'est capital, c'est tout le problème de l'intention du ministre. Quelle est mon intention ? Lorsque je vais consacrer l'hostie, lorsque je vais consacrer le calice, quelle sera mon intention ? Mon intention, bien, elle n'est rien d'autre que l'intention du Christ lui-même, que l'intention de l'Église. Je ne veux rien d'autre que cela. Et ça, eh bien, il faut que je l'exprime avant. Sinon, si j'exprime avant une intention qui n'est pas la même, qui n'est pas conforme à celle de l'Église et à celle du Christ, eh bien, il n'y aura pas d'immolation. Et donc, il faut que je la détermine avant cette intention. Oui. Si je n'ai pas l'intention de l'Église, si je n'ai pas l'intention du Christ, si je ne veux pas faire ce que va vouloir faire le Christ au moment où je vais l'immoler, eh bien, en fait, je ne ferai rien du tout. Il faut que je colle ma volonté à la volonté du Christ, à la volonté de l'Église. Et à ce moment-là, ça va passer, ça va marcher. Je serai effectivement le ministre de l'intention du Christ. Mais pour cela, il faut que je l'exprime avant, que le Christ sache si effectivement il peut se servir de moi pour réaliser son immolation, dans cette intention qui est la sienne. Moi, je ne peux pas avoir une autre intention que la sienne. Si j'ai une autre intention, si je ne veux faire qu'un sacrifice d'action de grâce, de louange, de reconnaissance, ou je sais pourquoi, moi, tout ce qu'on peut imaginer, partager le pain rompu pour un monde nouveau, etc., ben, le Christ, il reste dans son ciel. Puis moi, non, c'est pas ce que je veux faire, moi. C'est pas pour ça que je descends dans l'hostie, j'y descends dans l'hostie avec mon acte rédempteur. Tu veux pas que j'y vienne avec l'acte rédempteur? Eh bien, je reste dans mon paradis. C'est simple. Et ça, il faut que le prêtre l'exprime avant. D'où l'importance de l'offertoire qui fixe, qui détermine justement quelle sera l'intention de l'Église, l'intention du ministre, l'intention de tous ceux qui vont offrir effectivement le sacrifice de la messe. Alors c'est là que la chose est importante, je crois, bien comprendre un peu quelle est cette offrande qui va se réaliser à la messe. Enfin, déjà, nous l'avons un peu évoqué dans ces quelques mots. Mais c'est que la messe, c'est un sacrifice. Sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui doit devenir, de façon nécessaire, sous peine d'être inutile, le sacrifice de l'Église. Alors, c'est là un peu qu'est la question que nous pouvons nous poser, un peu le rapport entre la messe et l'Église. Nous commencerons par cela, voir un peu quels sont les liens entre la messe et donc notre Seigneur et puis l'Église. Ensuite, nous verrons, si j'avance, nous verrons un peu quelle est la valeur, justement, la valeur infinie, l'efficacité de la messe. Et puis, enfin, l'application et les fruits de la messe. Oui, donc tout cela ce n'est pas encore le cœur même de la messe, ce n'est pas le sacrifice proprement dit, mais c'est tout ce qui fait suite ou tout ce qui prépare un peu, oui, le sacrifice proprement dit. Oui. Alors il est bien clair d'abord, si nous considérons la messe et l'Église, eh bien qu'il ne peut y avoir qu'un seul sacrifice. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dilemme à mettre, à placer entre le sacrifice de Jésus-Christ commencé à la scène et consommé à la croix, et le sacrifice ecclésiastique, si l'on peut dire, ou le sacrifice de la messe, le sacrifice de l'Église. Il n'y a pas à choisir, il n'y a qu'un seul sacrifice à la scène, à la croix, à la messe. Il y a sacrifice de Jésus-Christ, tête du corps mystique, et donc assumant toute l'Église. Il y a en même temps, donc, sacrifice de l'Église assumé par Jésus-Christ. Il y a la tête et les membres, tout simplement. C'est le Christ, c'est la tête qui pose, qui réalise le sacrifice, mais pour qui le réalise-t-il? Pour son corps, qui est l'Église. Et l'Église ne peut pas être indifférente, elle ne peut pas être absente de ce sacrifice qui est réalisé par sa tête, par son chef. Donc elle est présente, au moins spirituellement. Oui. Donc c'est sacrifice de tout le corps, assumé par la tête. Mais il est certain qu'à la messe, donc notre liturgie, notre messe actuelle, il est certain que la part de l'Église est plus large, je dirais, qu'à la scène ou à la croix. L'Église est, si on peut dire, bon, non pas plus présente, ça n'est pas vrai, oui, mais cette part de l'Église est plus large, plus extensive, plus manifeste, si l'on veut, oui, qu'il ne l'était à la croix ou bien à la scène. Oui. Mais la messe demeure toujours, même si l'Église est davantage présente aujourd'hui au sacrifice de la messe qu'elle ne l'était au sacrifice de la croix, mais la messe demeure toujours d'abord le sacrifice de Jésus-Christ et secondairement, et dans sa dépendance, le sacrifice de l'Église. Sacrifice, donc, hiérarchique, si l'on veut. Il y a donc une hiérarchie, mais il n'y a pas d'opposition, de dualité, il n'y a pas deux sacrifices, c'est le même, l'unique sacrifice. L'Église ne peut pas offrir un sacrifice sans son souverain prêtre et sa souveraine victime. Il n'y a qu'un prêtre et qu'une victime, mais l'Église ne peut pas offrir de sacrifice en l'absence, eh bien, de Jésus-Christ. Et le sacrifice de notre Seigneur n'a pas de raison d'être s'il n'est pas en même temps le sacrifice de toute l'Église. Ça n'a aucun sens. Je dirais qu'il s'immole, c'est très bien, mais si l'Église, si ce n'est pas pour l'Église, si l'Église n'est pas immolée d'une certaine façon dans son propre sacrifice, ben, ce sacrifice est inutile, inefficace pour l'Église. Ouais. Alors c'est là qu'il importe de distinguer, ouais, pour bien comprendre la place de l'Église, je crois, dans la messe, deux aspects dans ce sacrifice. Sacrifice de notre Seigneur, qu'il soit celui de la scène ou celui de la croix, considérons d'abord cela, celui de la scène et la croix, donc le sacrifice tel qu'il l'a réalisé lui-même, ensuite nous verrons à la messe. Il y a à la fois dans ce sacrifice deux aspects, si l'on veut. Ce sacrifice est à la fois un acte cultuel, un acte de culte, un acte liturgique, mais également un acte d'amour. Et les deux réalités sont importantes, je pense, à bien distinguer. Il y a un sacrifice, donc un culte sacrificiel, une liturgie, que ce soit à la scène ou à la croix même, une certaine liturgie à la croix, qui enveloppe et qui contient l'acte d'amour rédempteur du Christ. Et donc, il y aura justement dans cet acte-là, dans ce sacrifice, deux aspects à considérer. Celui, disons, de la validité cultuelle, liturgique, et celui de l'amour rédempteur. Alors, si nous considérons le sacrifice tel qu'il a été réalisé par notre Seigneur lui-même, sans autre ministre que lui-même, oui, eh bien, il y a bien sûr un prêtre unique, et seul Jésus-Christ peut offrir le sacrifice qui accomplit, qui abroge les rites, le culte et les sacrifices de la loi ancienne. Il est le nouveau prêtre, le nouveau pontife, et il est le seul à pouvoir réaliser cette nouvelle liturgie qui abroge l'ancienne liturgie, celle de l'Ancien Testament. Il est seul à être consacré prêtre pour l'éternité, seul il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, personne d'autre que lui ne peut faire cela, et donc il est le seul à pouvoir offrir à Dieu un sacrifice de valeur infinie qui remplace tous les sacrifices de l'ancienne loi. Mais, ça c'est l'aspect donc cultuel, si l'on veut, oui, liturgique, canonique, si l'on veut. Bon. Mais ce sacrifice, et c'est cela qui est le plus important sans doute, et qui lui donne toute sa valeur, hein, ce sacrifice donc liturgique est l'enveloppe de l'amour rédempteur. Cet amour rédempteur qui aspire, qui demande à incorporer tous les hommes. Et ce sacrifice cherche à attirer à lui l'offrande de tous les hommes. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voilà ce que veut Jésus-Christ. Cet amour rédempteur, sous les qui monte vers le ciel avec une puissance infinie, cherche à aspirer un peu, si on peut dire, tous les cœurs des êtres humains, voyez, dans ce grand élan d'amour qui passe par la croix et qui monte jusqu'au cœur de son Père. Et c'est cela le plus important. La liturgie est au service de ce mouvement de charité. Et à la croix, eh bien, sur quelles âmes s'est exercée, si on peut dire, cette aspiration de la charité du Christ? Eh bien, sur l'âme de Notre-Dame et sur l'âme de Saint-Jean, l'âme des saints qui étaient là au pied de la croix, voyez, qui ont été comme aspirés ainsi par cet acte d'amour rédempteur, oui, qui faisait battre le cœur de notre Seigneur sur la croix. Ils sont attirés ainsi à offrir non pas leur propre vie, mais c'est pas, Notre-Dame n'offre pas sa vie, Saint-Jean n'offre pas sa vie, cela est insuffisant, cela ne peut pas suffire à la rédemption. Oui. Mais ils offrent quoi? Qu'est-ce qu'ils offrent là à la croix? Ils sont attirés par notre Seigneur à offrir tout ce que Jésus-Christ offre lui-même. Voilà. Tout ce qu'il offre, eh bien, il l'offre avec lui. L'intention est la même, la volonté, l'acte de charité est la même. Ils n'ont pas d'autre désir que celui qui dévore l'âme du Christ. Et ainsi, eh bien, ils entrent par cet élan d'amour, cette aspiration d'amour, ainsi, ils entrent à l'intérieur de cette grande oblation liturgique, sacrificielle et amoureuse de Jésus-Christ. Et c'est ainsi, eh bien, par Notre-Dame et par Saint-Jean au pied de la croix, que, eh bien, que l'Église entre dans la passion rédemptrice. Cela s'était déjà réalisé d'une certaine façon à la scène, lorsque le Christ a posé déjà son acte sacrificiel devant ses apôtres. Il était seul, là encore, à agir pour réaliser l'acte liturgique. Il était l'unique prêtre, il n'y avait pas d'autre prêtre que lui, mais il a attiré, là, de la même façon, déjà, avant Notre-Dame et Saint-Jean, mais déjà tous les apôtres qui étaient là, qui ont été attirés par lui, justement, aussi, à s'unir à cet élan d'amour, cet élan de charité qu'il avait imprimé dans leur âme. Oui. Et ce qui est intéressant de considérer dans ces deux moments, la scène ou la croix, eh bien, c'est que l'Église pénètre déjà par Notre-Dame, par Saint-Jean, par les apôtres. L'Église pénètre déjà au cœur de l'acte rédempteur, oui, par pénétration par la charité. Elle s'unit à la charité, cette immense charité qui dévore l'âme du Christ. L'Église donc pénètre déjà, ouais, dans l'intime finalement de l'acte rédempteur, et cela se fait sans aucune participation de l'Église à l'acte liturgique, à l'acte cultuel. Là, le Christ est le seul à réaliser, si l'on peut dire, la liturgie de son sacrifice, que ce soit à la scène ou à la croix. C'est lui, il n'y a pas d'autre prêtre que lui. Ouais. Mais l'Église pénètre quand même déjà dans ce qu'il y a à l'intime de cet acte liturgique, qui est justement cet élan de charité. Alors à la messe, que se passe-t-il? Eh bien la messe donc nous donne, disions-nous, notre Seigneur glorieux, tout-puissant, et son acte rédempteur, et son offrande également, bien sûr, la même offrande, elle est là, à la messe, pour attirer à lui, bien de la même façon, toute l'Église. Chaque fois que la messe est célébrée, eh bien, toute l'Église est attirée, voyez, à pénétrer une fois de plus, voyez, dans la passion, dans l'acte, dans l'élan de charité du Christ. Voyez. Et là, nous y retrouvons donc encore les deux aspects, aspect cultuel et aspect de charité, mais tout l'ordre du culte est pour, en vue de la charité rédemptrice. Vous voyez, le sacrifice cultuel est pour la manifestation de l'amour rédempteur. Il s'agit donc, vous voyez, de manifester, de rendre manifeste aux êtres humains que nous sommes cet amour rédempteur. Vous voyez, et pour susciter dans nos âmes également, eh bien, ce même élan d'amour rédempteur, de charité, pour que l'Église pénètre et s'unisse ainsi à l'acte de notre Seigneur. Alors, si nous considérons d'abord justement cet acte cultuel à la messe, oui, l'acte liturgique, on peut se poser plusieurs questions. Qui offre la messe? Qu'est-ce que l'on offre à la messe? Bon, nous verrons. Oui, donc, qui offre la messe? Qui offre la messe? Question qui peut paraître un peu simple. La réponse, vous la connaissez certainement, mais nous allons voir. Eh bien, d'abord, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier offrant à la messe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la cause première, hein, l'agent premier du sacrifice de la messe. Et c'est lui qui, essentiellement, bien sûr, offre la messe, c'est lui qui réalise toutes les transsubstantiations de l'univers et toutes les oblations. C'est en son nom et par sa puissance que sont prononcées les paroles consécratoires. Nous l'avons déjà évoqué une fois précédente. Et les prêtres n'agissent pas en leur nom propre. Mais ils agissent, c'est une formule connue, bien connue, les prêtres agissent in persona Christi, les prêtres agissent dans la personne du Christ. Ils offrent en tant que représentants de notre Seigneur Jésus-Christ. Considérons les paroles de la consécration. Voici ce que dit par exemple Cajetan, qui est un des commentateurs, un des plus célèbres de saint Thomas d'Aquin. Voici ce qu'il dit. Le Christ, prêtre unique du Nouveau Testament, est présent à l'autel. Car ce n'est pas en leur propre nom, mais au nom du Christ, que les ministres consacrent le corps et le sang du Christ, comme l'attestent les paroles de la consécration, en sorte qu'ils offrent comme représentants du Christ. Le prêtre ne dit pas, en effet, « Ceci est le corps du Christ », mais « Ceci est mon corps ». Mais une petite nuance. Hein. Le prêtre ne dit pas « Ceci est le corps du Christ ». Il dit « Ceci est mon corps ». C'est une différence qui est capitale, hein. Dramatique, si on peut dire. Hein. « Ceci est mon corps », donc rendant présent au nom du Christ, sous l'espèce du pain, le corps du Christ, selon le commandement du Christ. Mais ce n'est pas le prêtre qui peut réaliser cela par sa propre puissance. Il réalise cela parce qu'il est, il gère, dit saint Thomas d'Aquin, il gère la puissance du Christ. Au moment où il prononce les paroles de la consécration, le prêtre agit in persona Christi, il est investi de la puissance du Christ, il devient l'instrument volontaire, conscient, libre, de la puissance du Christ, il gère la puissance du Christ. Et c'est pourquoi il dit « Ceci est mon corps ». Parce qu'il parle, en fait, il est l'ambassadeur du Christ. Et les paroles qu'il prononce, bien sûr, c'est lui qui les prononce, mais fondamentalement, c'est le Christ qui les prononce. C'est déjà ce que disait saint Ambroise. Par quel mot se fait donc la consécration et de qui en sont les paroles ? Du Seigneur Jésus. En effet, tout ce qui précède est dit par le prêtre. On offre à Dieu des louanges, on prie pour le peuple, pour les rois, pour les autres, et dès qu'on en vient à produire le vénérable sacrement, le prêtre cesse de se servir de ses propres paroles, il se sert des paroles du Christ. C'est donc la parole du Christ qui produit ce sacrement. Quelle parole du Christ ? Eh bien, celle par laquelle tout a été fait. Tu vois comme elle est efficace, la parole du Christ. Si donc il y a dans la parole du Seigneur Jésus une si grande force que ce qui n'était pas a commencé d'être, combien est-elle plus efficace pour faire que ce qui était existe et soit changé en autre chose ? Avant la consécration, ce n'était pas le corps du Christ, mais après la consécration, je te dis que c'est désormais le corps du Christ. Et oui, et ça, c'est bon, c'est ce que dit le Concile de Trente. C'est le même Christ, dit-il. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre. C'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Et tout, mais c'est le même qui offre. Hein. Fondamentalement, c'est le même. Hein. Et c'est des choses importantes, là. Bon, si on évoque un tout petit peu comme une question assez actuelle, ne serait-ce que la question, ouais, de la... Même la typographie, je pense, une question dont vous avez entendu parler, déjà. Vous voyez, on distingue pour la liturgie de la messe, le mode... récitatif, et puis le mode intimatif. Vous voyez, quand le prêtre récite les paroles du canon, il y a jusqu'à un certain moment, il récite. Il prie du pain, etc. Bon, voilà. Là, il récite. Et puis tout d'un coup, c'est fini. Le mode récitatif s'arrête, et on passe au mode intimatif, et là, le prêtre commande. Hoc est enim corpus meum. C'est fini. Il ne raconte plus, là, le récit. Il agit véritablement au nom du Christ. Ouais. Et la typographie change. La typographie change. Ce n'est plus le récit. Ouais, il y a un point. On s'arrête. Le récit s'arrête. Point. Hoc est enim corpus meum. Dans le nouveau rituel, il n'y a plus un point, il y a deux points. C'est le récit qui continue. C'est un détail, me dira-t-on. Mais c'est un détail qui a son importance et qui est fondamental. Fondamental. Bon, enfin. Donc le premier qui offre, c'est le Christ. Et personne ne peut rien offrir si le Christ d'abord n'offre pas, fondamentalement. Oui. Il y a ensuite, bien sûr, l'Église et les prêtres. L'Église et les prêtres. Et le prêtre, dans la messe, au cours de la messe, le prêtre est... je ne dis pas que c'est compliqué, non, mais il intervient de deux façons différentes. Parfois, il intervient comme ministre du Christ, et à d'autres moments, il intervient comme ministre de l'Église. Il intervient comme ministre du Christ en un seul moment de la messe, finalement, c'est le moment de la transsubstantiation. À ce moment-là, il n'est plus le ministre de l'Église, mais il est le ministre du Christ. Oui, parce qu'il parle véritablement, cette fois, au nom du Christ. Il commande à la matière, oui, de céder la place au corps du Christ et au sang du Christ. Et donc, à ce moment-là, il agit en tant que ministre du Christ. Il fait entendre la voix de notre Seigneur. Oui. Et cela, eh bien, par le sacrement de l'ordre, par ce caractère sacerdotal qu'il a reçu, qui est un pouvoir spirituel, une puissance spirituelle instrumentale qui lui permet justement au moment de la consécration eh bien, d'être agi, oui, en tant qu'instrument, il est agi par la personne même du Christ. Oui, ce n'est plus lui qui agit, mais il devient l'instrument entre les mains du Christ pour réaliser la présence réelle dans l'hostie, le sacrifice dans l'hostie et dans le calice. Et donc, seul peut célébrer, ouais, quant à la consécration, quant à l'immolation, ouais, seul peut réaliser cette immolation, ce sacrifice, celui qui a reçu le caractère sacerdotal. Tout autre être humain, il peut essayer de faire tout ce qu'il veut, prononcer 1000 fois les paroles de la consécration, ça ne fera rien du tout. Rien. Parce qu'il manque ce caractère sacerdotal qui est une puissance, un pouvoir spirituel, pouvoir d'agir au nom du Christ. Celui qui n'a pas ce pouvoir, ben, ma foi, il ne peut rien faire. Il peut faire d'autres choses, ça c'est clair, mais il ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, c'est ainsi. Donc ça, c'est le moment où le prêtre agit véritablement comme ministre du Christ. Et puis avant et après ce moment-là, eh bien, le prêtre agit en son nom propre ou bien au nom de l'Église. Oui, c'est l'Église plutôt qui agit en son nom propre par le ministère de ses prêtres. Et c'est l'Église alors qui elle-même dispose les prières, les cérémonies de la messe, justement, pour que l'essence du sacrifice de la messe, eh bien, soit bien préparée, bien disposée, bien entourée, afin que les fidèles qui sont là puissent véritablement rentrer à l'intérieur du mystère de la messe, et rentrer donc dans la passion rédemptrice. Voyez. Alors, cette disposition, disons, de la liturgie de la messe, l'Église ne l'a pas fait au hasard, elle l'a fait d'abord... Je dirais par la formation que les apôtres ont reçue de Jésus-Christ lui-même, il ne faut pas l'oublier quand même. Après la résurrection, Jésus-Christ a vécu 40 jours avec les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là ? On croyait qu'ils ont... Bon, mais voilà. Certainement, notre Seigneur leur a donné tout un ensemble de consignes, mais pour continuer à faire ce qu'il avait fait. Il allait pas repartir, remonter aux cieux. Et certainement, il leur a dit comment il faudrait réaliser son sacrifice, administrer les sacrements, etc. Bon, tout cela, les évangiles peut-être ne l'ont pas conservé, je dirais, dans tout le détail, mais on ne peut pas imaginer, oui, que le Christ ait abandonné ses apôtres sans leur donner le minimum vital qui leur serait nécessaire, eh bien, pour continuer l'Église et continuer à faire ce qu'il avait fait. C'est impensable, cela. Enfin, ça ne tient pas debout. Quoi. Donc, d'abord, il y a eu cette formation des apôtres par notre Seigneur. Et puis ensuite, il y a eu quand même aussi l'assistance de l'Esprit-Saint. Il ne faut pas oublier, comme l'Esprit-Saint n'a pas attendu Vatican II pour visiter l'Église, quand même. Je crois qu'il l'a visité bien avant 1962, quand même, grâce à Dieu. Hein. Donc, l'assistance divine, l'assistance de l'Esprit-Saint, mais sous la responsabilité propre de l'Église. C'est vrai, c'est l'Église qui a, bon, à telle époque, choisi d'insérer telle prière de l'offertoire, telle prière de la communion. C'est vrai. Mais tout cela, on dirait, autour d'un rite essentiel qui, lui, n'a pas varié. Et le Concile de Trente le dit, le canon remonte pour l'essentiel à la période apostolique. Le canon, notre canon, donc pour l'essentiel, bien sûr, hein, il remonte à la période apostolique. Donc c'est les apôtres qui l'ont constitué tel qu'il est actuellement. Bon, qui oserait y toucher? Bon, enfin. Oui, donc tout le reste, tout ce qui entoure l'acte consécratoire lui-même, il est sûr que là, le prêtre agit en tant que ministre de l'Église. C'est l'Église, donc, qui agit par ses ministres. Et là, les prêtres, eh bien, ne sont plus ministres de notre Seigneur, mais ministres de l'Église. Donc, il y a dans cette offrande, vous voyez, cette entrée, l'offrande essentielle faite par notre Seigneur, l'Église, par le ministère de ses prêtres, qui s'insère également dans cette offrande. Et il y a également, bien sûr, tous les fidèles, pas seulement les prêtres, bien sûr, mais tous les fidèles. Et là, on peut se référer au texte de Saint-Pierre, la première épître de Saint-Pierre, ce texte célébrissime dont on nous rabat les oreilles depuis quelque temps. Hein. Peuple de prêtres, peuple de rois, le sacerdoce royal, ce qui est vrai, attention, hein, je ne nie pas, il ne s'agit pas de contredire ce qu'a dit Saint-Pierre, mais il faut bien comprendre ce qu'il a voulu dire. Il est vrai que le baptême, la confirmation, confère, donc imprime un caractère dans l'âme des baptisés. Le baptisé, donc, et porte en lui un caractère qui est un sceau gravé de façon indélébile dans son âme. Le confirmé reçoit encore un autre caractère qui vient encore enfoncer un peu plus, si l'on peut dire, ce premier caractère baptismal. Et il est vrai, eh bien, que ces caractères baptismal ou celui de la confirmation sont des participations au pouvoir sacerdotal de notre Seigneur. Oui. Voici ce que dit saint Thomas d'Aquin sur cette question-là, rapidement, juste un. Le rite de la religion chrétienne dérive du sacerdoce du Christ. Le rite de la religion chrétienne dérive tout entière, bien sûr, tout entier, du sacerdoce du Christ, qui est le prêtre. C'est lui qui a fixé le rite de la religion chrétienne. Il est donc évident que le caractère sacramentel est spécialement caractère du Christ, au sacerdoce de qui les fidèles sont configurés selon les caractères sacramentels. Et les caractères sacramentels ne sont pas autre chose que des participations du sacerdoce du Christ. Et par le caractère baptismal, eh bien, vous participez au sacerdoce du Christ. Pourquoi faire? Non pas pour immoler la victime, mais pour offrir la victime. Et voilà le rôle voilà ce ministère ou ce sacerdoce, voyez, des fidèles, qui est une réalité. Le caractère, vous l'avez appris, je pense, au catéchisme, le caractère, donc, rend apte à certains actes du culte. Le baptême rend apte à recevoir l'Eucharistie, à recevoir les autres sacrements. Le baptême rend apte à contracter mariage, à recevoir l'Eucharistie, la confirmation, le sacerdoce, l'extrême onction, tout ce que l'on peut imaginer, enfin, tous les sacrements, du moins, de l'Église. Et il rend apte également à s'unir au prêtre dans l'offrande du sacrifice. Le caractère baptismal. Ouais. Et celui qui n'a pas le caractère baptismal ne peut pas s'unir à l'offrande de la messe. C'est pourquoi, autrefois, on renvoyait les catéchumènes avant l'offertoire. C'est très logique, ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ce caractère. Ils ne l'avaient pas. Donc, ils ne pouvaient pas s'unir à l'offrande qui allait commencer. Alors, on dit, écoutez, rentrez chez vous. Et puis, quand vous serez baptisé, là, vous pourrez rentrer, participer à la grande action liturgique qui est celle de la messe. Oui. Mais celui qui n'a pas le caractère ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, autrefois, on les renvoyait parce qu'ils étaient inaptes. Oui. Et le baptisé, donc, il est apte, précisément, par ce caractère baptismal, à rentrer, oui, dans cette grande offrande qui est celle du Christ, qui est celle de l'Église, qui est celle des prêtres, et qui doit être également celle des fidèles. Alors, donc, il est bien évident que ce caractère baptismal ne donne pas le pouvoir d'intervenir dans l'acte même de la transsubstantiation. Vous n'êtes pas des concélébrants, quoique on puisse le dire un petit peu, mais nous allons voir. Ouais. Mais il vous donne le pouvoir d'intervenir avant, déjà un petit peu, dans cet acte d'offrande, et puis après, bien sûr, après, pour recevoir la communion. Voilà, et la belle façon, justement, eh bien de participer à l'acte liturgique de la messe, eh bien, c'est de s'unir à l'offrande, s'unir à l'offertoire, s'unir bien sûr, mais bon, spirituellement, simplement, à l'acte de la consécration, de la transsubstantiation, et puis ensuite, eh bien, s'unir, participer, rentrer encore dans l'offrande par l'acte de la communion. Vous voyez, tout cela, vous voyez, c'est la participation cultuelle, liturgique des fidèles. L'assistance à la messe est un acte liturgique, est un acte actif, si on ose dire, un acte actif, ou dynamique, je ne sais pas comment dire ça, ce n'est pas un acte passif. Le fidèle, il est véritablement, bon, je sais pas comment dire ça, mais d'une certaine façon, oui, qu'on célébrant. Et oui, oui, c'est, vous avez comme des prières, le pape Pie XII, dans son encyclique Mediator Dei, vous connaissez, j'espère, 1947, encyclique sur la liturgie, justement, qui est très très belle, hein, et Pie XII signale justement plusieurs passages de l'ordinaire de la messe où le prêtre ou les prières de l'Église manifestent bien cette union entre le prêtre et les fidèles. Il ne s'agit pas simplement... Le prêtre n'est pas tout seul à offrir. Il est seul à consacrer, mais il n'est pas seul à offrir. Priez, mes frères, oratez, fratresse, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre... Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, si vous vous dormez pendant ce temps-là, qu'est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas le vôtre, alors. C'est dommage. Oui. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par Dieu, le Père Tout-Puissant. Ou bien encore, la unde et memores, prière qui suit la consécration. Souvenez-vous, Seigneur, non, c'est pas là, mais enfin, peu importe, c'est dans le memento, ça, excusez-moi. Souvenez-vous, Seigneur, de vos serviteurs et de vos servantes, pour qui nous vous offrons, ou qui vous offrent même ce sacrifice de louange. Le memento des vivants, hein. Bon, pour vos serviteurs, pour qui nous offrons, ou bien qui vous offrent eux-mêmes ce sacrifice de louange. Cette offrande, ça c'est dans le Ancigitur, cette offrande que nous vous présentons, nous, vos serviteurs, et avec nous, votre famille entière, nous vous prions, Seigneur, de l'agréer avec bienveillance. Alors ensuite, le Unde et Memores, oui, c'est pourquoi nous, vos serviteurs, et avec nous, votre peuple saint, nous présentons à votre glorieuse majesté, etc. Oui, il y a toujours, c'est sans cesse, tout le monde se rappelle, eh bien, que l'offrande que présente le prêtre n'est pas que son offrande, il n'est pas le seul à la présenter, il y a également toute la famille chrétienne, tous les fidèles, qui doivent également la présenter. Alors, c'est là que l'on peut-être, bon, mais attention, c'est dangereux de parler de ça, mais enfin, vous êtes grands quand même, on peut vous en parler, hein, vous êtes des gens sérieux, j'espère que vous ne me ferez pas dire ce que je ne dis pas, d'une certaine concélébration des fidèles. Mais attention, hein, et concélébration précisément dans l'acte de l'offrande. Effectivement, les fidèles doivent participer à la célébration de l'offrande de la messe, et préparer l'offrande, etc. Mais il est certain que seul le prêtre peut accomplir lui-même, hein, l'acte sacrificiel. Ouais, donc ça c'est... Et certains auteurs, mais c'est un peu dangereux, mais enfin, c'est faire attention. On a dit tellement de bêtises depuis que... Bon. Le père Clérissac, vous voyez, par exemple, disait ceci. Membre du corps mystique du Christ, tout baptisé devient concélébrant de l'unique sacrifice avec l'Église et le Christ. Cette participation au sacerdoce de l'Église fait désormais sa véritable royauté. Alors comprenez bien ce que cela signifie, hein. Concélébrant pour l'offrande, hein, non pas pour l'immolation elle-même. Seul le prêtre, justement, je vous l'ai dit, a ce caractère qui lui permet effectivement d'être le ministre du Christ, hein, pour réaliser l'acte sacrificiel lui-même. Ouais. Alors ça, c'est l'acte liturgique, ouais, de l'offrande liturgique. Donc notre Seigneur offre, l'Église offre, le prêtre offre, les fidèles offrent. Bien. Et ensuite, il y a l'autre aspect, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est cet aspect donc de l'acte de charité, l'acte d'amour rédempteur. Nous le disions, le rite est donc pour l'amour, en faveur de la charité. L'acte du culte est pour la charité rédemptrice. Et dans cet ordre, qui est l'ordre primordial, l'ordre de la charité, eh bien là, les derniers peuvent être les premiers. Et qui sait qui est le premier? Bon, notre Seigneur, d'accord, mais à part notre Seigneur, qui est le premier, qui est le plus attiré, aspiré, oui, dans cet acte de charité, hein, qui est celui du Christ, qui est celui de l'Église, qui est le premier là? Eh bien, Dieu seul le sait, moi je ne sais pas. Et notre Seigneur, dans cet acte sacrificiel, attire à lui toutes nos offrandes, toutes nos supplications, qu'il a incorporées dans la sienne. Ouais, tout est incorporé dans l'offrande qu'il fait de lui-même. Ouais, toutes nos offrandes, toutes nos supplications, tous nos renoncements, tous nos sacrifices personnels, ouais, tous nos actes de charité. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, cela. Et Pie XI avait, dans son encyclique sur le Sacré-Cœur, a bien mis cela, je crois, en lumière. Et quand on pense au Sacré-Cœur, bien sûr, nous voyons toujours le côté, oh là là, je l'ai fait souffrir, ce qui est vrai, c'est clair. Mais il y a autre chose aussi à considérer. Et c'est cela, je crois, que l'Église, ou que le Christ, cherche à susciter dans nos âmes à la messe. Oui. À cause de nos péchés futurs, mais prévus, l'âme du Christ devint triste jusqu'à la mort. C'est vrai, cela. Mais il n'est pas douteux qu'elle a, dès ce moment, reçu quelque consolation de nos actes de réparation, eux aussi prévus. En sorte que nous pouvons et devons, maintenant même, par une dispensation mystérieuse mais véritable, consoler ce cœur sacré, constamment blessé par les péchés et l'ingratitude des hommes. Alors là, qui est le plus généreux, là, dans cet ordre-là, oui. Quel est celui parmi ceux qui assistent ou qui célèbrent la messe, celui qui est le plus, oui, entraîné comme cela, oui, vers le cœur de notre Seigneur, hein, pour rentrer vraiment dans son acte de charité? Je ne sais pas. Oui. Il est certain que le prêtre est seul à célébrer, cela est bien clair, mais ensuite, eh bien, un peu comme, on peut dire, le prêtre ouvre la porte, on peut dire, du cœur de Jésus-Christ à la messe. Ouais. Il ouvre la porte, il ouvre le cœur de Jésus-Christ. Mais après, lequel va s'engouffrer dans le cœur du Christ, le premier, avec le plus de ferveur, le plus d'ardeur, le plus de générosité? Peut-être le prêtre, mais pas forcément. Ça peut être, excusez-moi, mais la petite bigote qui est au fond de la chapelle, dont tout le monde se moque, mais qui est peut-être dévoré justement par l'amour du Christ, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Mais ça, il n'y a que le bon Dieu qui le sait. Mais en tout cas, la messe est ordonnée à ça. La messe est ordonnée à ça, à aspirer nos cœurs, à aspirer l'amour qui est dans nos cœurs, à le susciter, à l'augmenter, et à le faire pénétrer dans le cœur de Jésus-Christ pour qu'il soit, comme ça, assumé par lui et présenté à son Père. Voilà, pour que Dieu bien puisse nous bénir, comme ses enfants bien-aimés. Ouais. Et oui. Dans l'ordre du culte, bon, il est clair que le prêtre est l'unique instrument de l'amour rédempteur, hein, mais dans l'ordre de l'amour, eh bien, le prêtre, si on peut dire, n'est que le premier des invités. Il est au même rang que les fidèles dans cet ordre-là. Il est au même rang que les fidèles. Il est le premier invité, bien sûr, parce que c'est lui qui est là, le plus près. Mais il peut être invité et puis penser à autre chose. Il dit, oh là là, moi je viens d'acheter deux paires de bœufs, là, ou je ne sais pas quoi. Bon, j'en sais rien. N'imaginez pas des choses pareilles, mais enfin, malheureusement, c'est... Et oui, là, c'est autre chose. Ouais, c'est l'ordre de l'amour, là. Bien, c'est ce qu'il y a peut-être de plus caché, de plus secret dans le sacrifice de la messe. Nous voyons, bien sûr, tout ce qui est cultuel, tout ce qui est liturgique, tout cela apparaît, bien sûr. On peut peut-être... dire, oh là là, ce prêtre, il dit bien la messe, quelle piété, etc. Bon, peut-être, sans le voir, parce que ça, c'est cultuel, c'est liturgique. Mais, hein, le fond du cœur, le fond de l'âme, alors là, Dieu seul est juge de ces choses-là, et heureusement. Voilà, donc, qui est-ce qui offre? Oui, notre Seigneur, l'Église, le prêtre, les fidèles, avec ces deux ordres, l'ordre cultuel et puis l'ordre de la charité. Et qu'est-ce que l'on offre? Qu'est-ce que l'on offre à la messe? Eh bien, une seule chose est offerte. C'est la vie de Jésus-Christ. C'est la vie, l'âme, si on veut, l'âme ou la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et toute chose en lui. Tout, tout, toute chose en lui, dans cette âme, oui, dans cette vie de notre Seigneur. D'abord, si l'on veut, bien ce qui est requis au sacrifice, bien sûr, cela on l'offre, c'est clair. Puis ensuite, eh bien, tout ce qui sera sauvé, hein, tout ce qui sera effectivement bien assumé par l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Un seul sacrifice, une seule offrande. Et le pain et le vin qui sont offerts à l'offertoire ne sont offerts en fait, vous voyez, que parce qu'ils vont devenir le corps et le sang de Jésus-Christ. Et l'offrande du pain et du vin, donc parlons-en un peu, comme cet offertoire, ce rite de l'offertoire qui est très beau d'ailleurs, qui est, c'est peut-être parmi les plus belles prières, ouais, de la liturgie de la messe, c'est très très belle prière. Ouais. Bien sûr, les prières de l'offertoire désignent d'abord, bien sûr, le pain et le vin. Quand le prêtre élève l'hostie, lorsqu'il élève le calice, il offre d'abord, bien sûr, le pain et le vin. Et il est vrai que ces prières, ce rite s'est développé, au début du moins, n'existait pas tel qu'il existe actuellement. Cette offrande se faisait plutôt, justement, vous voyez, un petit peu dans l'acte même sacrificiel. Vous voyez, c'était cette offrande, en même temps que l'on immolait, on offrait le sacrifice. Mais c'est avec l'apparition des dangers de faux spiritualisme, notamment la gnose, vous voyez, que l'Église a voulu, justement, insister et manifester l'importance, ou la valeur, disons, eh bien, de la création terrestre, de l'offrande matérielle. De toute façon, le sacrifice est essentiellement spirituel, mais il est également sacrifice, offrande de réalité temporelle, matérielle, qu'il ne faut pas négliger. Le point de départ du don céleste, c'est d'abord la créature, réelle, la créature matérielle. Et donc, pour lutter un peu contre ce danger de faux spiritualisme un peu gnostique, eh bien, l'Église a voulu justement bien offrir les oblats eux-mêmes matériellement. Oui, bon, mais il est certain que ce n'est pas cela le plus important qui est offert, mais c'est également offert. Hein. Donc c'est là que l'Église a développé cette offrande matérielle. Mais encore une fois, le pain et le vin ne sont offerts qu'en relation, qu'en dépendance de l'offrande de notre Seigneur. Offrir à Dieu le pain de la terre ou le fruit du travail des hommes, le bon Dieu n'en a rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son Fils. C'est l'offrande de son Fils. Alors que l'on offre le pain, le... Bon, quoi, tous ces trucs-là, bon, très bien. Il veut bien, mais à condition que ce soit inséré dans l'offrande de son Fils. Oui. Tous les biens matériels que nous pouvons lui offrir ne l'intéressent pas. Le bon Dieu n'a que faire de nos biens matériels. Rien à faire, il n'a pas besoin. Ce dont il a besoin, entre guillemets, bien sûr, et c'est l'offrande de son Fils. Il en a besoin, non pas pour lui, mais pour nous pardonner, pour nous bénir. Oui. Et donc, le plus important, bien sûr, ce ne sont pas les oblats. C'est important quand même, cela compte. Hein. Ça manifeste, vous voulez, ça concrétise notre propre offrande à nous, si vous voulez. C'est notre participation à l'offrande du Christ. Nous offrons bien la matière, si vous voulez, du sacrifice. Et autrefois, d'ailleurs, dans les débuts, ce rite de l'offrande était beaucoup plus développé. Hein. Vous savez cela, il y avait toute une procession et chacun venait apporter un peu de ses biens, de ses trésors, etc. Le fromage, du lait, du beurre, des agneaux, des chèvres, tout ce qu'on peut imaginer. C'était un vrai... Bon, et après, même le prêtre faisait un partage entre bon, tout ce qui était... tout ce qui serait offert et ce qui serait gardé pour la nourriture des prêtres, tout simplement, ou bien pour la nourriture des pauvres. Hein. Bon, maintenant, cela est simplement manifesté bien par l'oblat, donc l'offrande de l'hostie, l'offrande du vin. Donc, offrande de réalité matérielle, mais qui sont subordonnées à l'offrande, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela, bien sûr, qui est essentiellement offert. Hein. Tout cela est exprimé de façon magnifique, justement, dans les prières du canon. Je vous laisserai les lire, hein, cette prière de Lunde et Memores, de Supraque Propitio, le Supplices Terogamus, oui. Que ces offrandes soient agréées. Et l'Église prie Dieu de bien vouloir agréer ses offrandes. Oui. Et le prêtre fait des bénédictions en même temps qu'il fait ses prières. Il bénit l'hostie consacrée, il bénit le calice consacré. Oui. Et ces bénédictions que fait le prêtre N'imaginons pas ces signes de croix plutôt qu'il fait sur l'hostie et sur les calices, n'imaginons pas que le prêtre ait la prétention de bénir le corps et le sang de Jésus-Christ. Pensez donc, le prêtre ne peut pas bénir Dieu. La chose est impensable, vous voyez. Mais ces signes de croix signifient simplement, ou si demandent, que par la sainteté, vous voyez, c'est une bénédiction qui part dans l'autre sens plutôt, vous voyez, que la sainteté de l'hostie, la sainteté du calice, eh bien, remonte et atteigne ceux qui ont participé à leur offrande. Vous voyez. Le prêtre donc fait ces signes de croix sur le corps et le sang du Christ, mais non pas pour les bénir, mais pour bénir ceux qui ont offert, qui ont participé à l'offrande du corps et du sang de Jésus-Christ. Oui. Donc avant la consécration, si l'on veut, la bénédiction descend du ciel vers l'hostie, et après la consécration, la bénédiction remonte de l'hostie vers les fidèles, vers nous. Et c'est là le sens de ces signes de croix que fait le prêtre sur l'hostie et sur le calice après la consécration. Voilà, donc ce qui est offert à la messe, donc c'est bien sûr les oblats, mais c'est essentiellement notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est également, bien sûr, mais cela, ça, c'est inclus, si l'on veut, dans l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ, également l'Église, bien sûr. L'Église s'offre elle-même avec Jésus-Christ. Hein. Notre Seigneur attire l'Église dans sa propre offrande et la provoque à se donner elle-même, à s'offrir elle-même. Un beau texte, là, de saint Augustin dans la Cité de Dieu. Il est lui-même celui qui offre, il est lui-même l'offrande. Et il a voulu que le sacrifice de l'Église fût le sacrement quotidien de cette réalité. L'Église, corps dont le Christ est la tête, apprend à s'offrir elle-même par lui. Et l'Église apprend à s'offrir elle-même par la tête, par celui qui est sa tête, celui qui est son époux. Oui. Donc le Christ s'offre, l'Église s'offre, et donc chacun d'entre nous est offert donc, dans cette offrande de la messe. Alors, quelle est la valeur? Donc, ceci, c'était donc la question de l'offrande. Qui est-ce qui offre? Qu'est-ce qui est offert? Quelle est donc la valeur ou l'efficacité de la messe? Eh bien, il est clair, là, je pense, vous le savez, que de soi, toute messe, puisque la réalité est la même que celle de la croix, toute messe a une valeur infinie. Une messe suffit. Une messe devrait suffire. Mais de fait, in concreto, eh bien, la messe, toute messe, n'apporte aux hommes qu'un secours limité. Et cette limitation vient non pas de la messe elle-même, bien sûr, puisqu'elle a une valeur infinie, mais la limitation vient de la dévotion de ce qui offre et de la dévotion de ce pour qui elle est offerte. C'est cela qui met des limites à la valeur et à l'efficacité de la messe. Vous voyez, la passion du Christ est la cause universelle du salut de toute l'humanité. La passion suffit à sauver tous les hommes, elle pourrait en sauver encore des millions d'autres, ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Mais elle doit être appliquée. Cette passion, qui a donc une valeur infinie, doit encore, pour effectivement obtenir son effet, son efficacité, elle doit être appliquée à chaque homme. Et comment se fait cette application? Eh bien, de deux manières. Les deux manières dont nous parle saint Thomas d'Aquin. Deux manières. Cette application se fait par le baptême, la pénitence et les autres sacrements qui tiennent leur vertu de la passion du Christ. Voilà la première façon d'appliquer aux êtres humains la vertu de la passion du Christ. Mais il y a une autre façon. Mais c'est aussi par la foi que la passion du Christ nous est appliquée afin que nous en percevions les fruits. D'après le mot de l'Épître aux Romains, Dieu a proposé Jésus comme propitiation par la foi en son sang. Or, la foi par laquelle nous sommes purifiés du péché n'est pas la foi informe qui peut se trouver même après le péché, mais la foi informée par la charité. attention, hein, ce n'est pas n'importe quelle foi, hein, qui va nous obtenir l'application des mérites de la passion du Christ, c'est la foi informée par la charité. Donc il ne suffit pas de croire, il faut encore aimer. Donc la charité. Voilà. Il y aurait bien des choses à dire justement sur tout ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui, hein, puisque croire suffit, paraît-il. Non, croire ne suffit pas. Il faut encore la charité. Une foi morte, le pécheur en état de, celui qui est en état de péché mortel, il a peut-être la foi, j'espère pour lui, qu'il n'a pas perdu la foi, mais s'il n'a plus la grâce, s'il n'a plus la charité, cette foi qu'il a est impuissante à attirer en lui les fruits de la passion du Christ. Il faudra qu'il retrouve la charité. Eh oui. Alors là, oui, bien sûr, la foi animée par la charité peut obtenir du Christ les fruits de la passion. Ainsi que les sacrements, ce sont là les deux façons dont les fruits de la passion sont appliqués à l'âme. Et donc, la passion, vous voyez, la messe, disons plutôt, il faut en parler comme de la passion. La messe également, chaque messe a une valeur infinie, mais elle produira les fruits dans l'âme des fidèles, dans l'âme des assistants, eh bien, d'une manière finie. Vous voyez, la valeur de la messe n'est participée, n'est appliquée, eh bien, qu'en fonction, justement, bien des dispositions de ceux qui offrent ou de ceux pour qui elle est offerte. Et saint Thomas d'Aquin, nous en reparlerons, si nous avons le temps, distingue justement le sacrifice et le sacrement. Et l'Eucharistie est à la fois sacrifice et sacrement. C'est le sacrement le plus beau, mais le plus riche, et donc peut-être un peu le plus difficile à bien saisir dans tout son mystère, l'Eucharistie. À la fois sacrifice et sacrement. L'hostie, elle est à la fois sacrifice, elle est le Christ glorieux, mais elle est également, elle contient donc l'acte rédempteur, l'acte sacrificiel, donc elle est sacrifice, mais elle est également sacrement. Et le sacrifice profite à qui ? Ben, le sacrifice profite à tous ceux pour qui il est offert, en soi, hein. Et le sacrement profite à qui ? À ceux qui le reçoivent, bien sûr. Quand je communie, la communion ne profite qu'à moi. Mais on pourrait dire bien des choses sur le fait de communier pour quelqu'un d'autre. Quand je mange un beefsteak, moi, il ne me profite qu'à moi. Quand je communie, ça ne me profite qu'à moi. Attention ! Ce qui ne m'empêche pas, peut-être, voilà, je communie, dans l'acte de ma communion, d'offrir les mérites et tout ce qu'on peut imaginer à l'intention de quelqu'un d'autre, ça c'est tout à fait permis. Mais la communion en tant que telle ne profite qu'à celui qui la reçoit. Oui, bon, voilà, petit aparté. Donc le sacrement ne profite qu'à celui qui le reçoit, mais le sacrifice, lui, bien, il peut profiter à tous ceux qui l'offrent ou à tous ceux pour qui il est offert. Alors, c'est sous ce rapport de l'efficacité du sacrifice de la messe, on peut envisager deux aspects, justement, l'aspect de la validité, et ça, grâce à Dieu, bien pour que le sacrifice, que l'offrande soit valide, il suffit que le prêtre soit validement prêtre. Ça suffit. Quelle que soit la sainteté, la dignité ou l'indignité du ministre, cela ne modifie en rien la valeur du sacrifice de la messe. Le Concile de Trente le dit, si ça peut vous rassurer. Eh oui, il y a des prêtres pécheurs. Ça existe, hein, des prêtres qui font des péchés. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est un de nos premiers scandales quand on est enfant. Ah, monsieur le curé, il allait se confesser. Oh, ben ça alors. On n'imaginait pas qu'un prêtre pouvait se confesser. Ben oui. Ça serait bien, hein, si on ne faisait pas de péché, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Bon, voilà, on essaye, hein, mais on est comme vous sous ce rapport-là, vous savez. Bon. Et voici ce que dit donc le Concile de Trente. Cette oblation pure, qu'aucune indignité, aucune malice de ceux qui l'offrent ne peuvent souiller, dont le Seigneur a prédit par Malachie qu'elle serait offerte pure en son nom, etc. Oui. Donc aucune indignité, aucune malice de ceux qui l'offrent ne peut souiller cette oblation pure. Mais le prêtre n'est que le ministre. C'est le Christ qui réalise la réalité du sacrifice. Oui. Ce qui fait qu'un prêtre pécheur, un prêtre en état de péché mortel, un prêtre concubin, excommunié, schismatique, franc-maçon, tant qu'il a le caractère sacerdotal, il aura dans l'éternité, eh bien, peut célébrer validement la messe. Bon, si ça peut vous rassurer, simplement. Oui. Voilà. Donc, sous ce rapport-là, de la validité, hein, bon, il y a simplement les conditions pour la validité, un prêtre validement ordonné, avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église, et puis la matière et la forme. Voilà, avec cela, ça marche. Et sous le rapport de la sainteté, donc l'efficacité sous le rapport de la sainteté, eh bien, tout dépendra précisément, eh bien, de la participation de ceux qui offrent et de ceux pour qui il est offert. Il est certain que même la piété, la dévotion, la sainteté du prêtre qui offre, sous ce rapport-là, peut ajouter quelque chose. Ouais. L'indignité du ministre ne peut pas empêcher la validité du sacrement, mais la sainteté du ministre peut obtenir des fruits supplémentaires, ouais, peut accroître un petit peu les fruits, l'efficacité sous le rapport de la sainteté, non pas sous le rapport de la validité. Que je sois saint ou que je sois indigne, ça ne changera rien à la validité, mais sous le rapport de l'efficacité quant à la sainteté, alors là, oui, la dévotion, la sainteté du ministre peut-être obtenir effectivement des grâces et des fruits, eh bien, que n'obtiendra pas peut-être un prêtre moins saint, moins pieux, moins dévot. Oui. Donc, il y aura une certaine variabilité quant à l'intensité, disons, de la charité de celui qui offre ou de celui pour qui elle est offerte. Il y a une valeur donc efficiente qui est infinie, mais une valeur d'application qui, elle, peut varier. Et c'est une des parfois une des interrogations, hein, que l'on peut se poser. On fait dire des messes où on prie pour des personnes, ceci, cela, et puis, il ne se passe rien. Apparemment, il n'y a aucun fruit qui est produit. Mais peut-être parce que la personne pour qui on prie, la personne pour qui la messe est offerte, eh bien, n'est pas suffisamment bien disposée. Alors, il y a la valeur infinie de la messe, mais à laquelle fait obstacle, eh bien, le défaut peut-être de disposition de la personne pour qui on prie. Alors, bon, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en faire, il faut continuer, parce qu'un jour, peut-être, eh bien, la grâce sera donnée pour changer, enfin, les dispositions de la personne pour qui on prie. Mais ça peut prendre du temps. Bon, là, c'est tout un mystère, là, ça devient un peu compliqué, mais, bon, rien n'est impossible, hein. La messe est toute puissante, donc il ne faut surtout pas désespérer, je dirais, mais il ne faut pas nous étonner, parfois, eh bien, que malgré nos prières, malgré les messes que l'on fait célébrer, eh bien, l'effet n'est pas encore obtenu. Bon, l'effet se prépare peut-être. Oui, il y a une brèche qui est en train de se faire, oui, mais tant que la brèche n'est pas faite, eh bien, la grâce ne peut pas passer par défaut de disposition de ceux pour qui la messe est offerte. Là, c'est toute la question, justement, bien des fruits de la messe. Oui, les fruits de la messe, ce sera la dernière. Notre dernier volet pour ce soir. Hein. Et la messe, vous voyez, l'application, les fruits de la messe, c'est là qu'il faut distinguer trois choses. Ce qu'on appelle le fruit général, le fruit spécial, et puis le fruit particulier. Mais ça répond à quelque chose, vous allez voir. Le fruit général, eh bien, c'est l'intention de l'Église, tout simplement. Oui. L'intention de l'Église, chaque fois qu'elle offre la messe par un de ses ministres, elle est toujours la même. Et quelle est l'intention de l'Église? Eh bien, c'est tous les fidèles vivants ici-bas ou en purgatoire, et même le salut du monde entier. Dans la prière de l'oblation du calice, cela est dit de façon très claire. Bon, les fidèles vivants et défunts, c'est dans l'oblation de l'hostie. Hein, pro vivis atque defunctis, donc l'Église offre pour les vivants et pour les défunts, Et dans l'oblation du calice, eh bien, l'Église également ajoute « Prototius mundi salute », pour le salut du monde entier. Voilà pour qui l'Église offre la messe. Donc tous les fidèles, vivants et défunts, mais également l'Église ne s'arrête pas simplement à ses enfants, à ses fidèles. Elle pense également, elle l'offre également, mais pour tous les autres. Bon, tous les autres qui voudront bien s'ouvrir un jour à la grâce rédemptrice. Oui. Et c'est là donc, disons-nous justement, que l'application sera peut-être mesurée précisément, mais par les dispositions de ceux pour qui on supplie. Ça, c'est le fruit général, donc tous les fidèles, vivants et défunts, et le monde entier. Ensuite, il y a le fruit spécial, ce que j'appelle le fruit spécial, qui est l'intention du prêtre en tant que ministre de l'Église. Le prêtre, quand il agit en tant que ministre immédiat de l'Église, le prêtre fixe une intention particulière. C'est cette intention pour laquelle vous demandez une messe. Vous demandez une messe, voilà, célébrer une messe pour le repos de l'âme, de mes parents, pour ceci, une grâce, action de grâce, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Ça, c'est une autre intention, donc plus spéciale, oui. Et là, il y aura un fruit spécial qui sera obtenu et appliqué dans l'intention que vous avez vous-même déterminée, que vous avez demandée, voilà, et pour laquelle le prêtre va célébrer la messe. Donc, il y a le fruit général auquel vient s'ajouter ce fruit spécial. Oui. L'Église attribue à son ministre eh bien, une part de ce qu'elle puise un peu eh bien, dans les trésors justement de la messe, oui, en lui laissant la liberté de l'appliquer à une intention spéciale. Et généralement, ben, le prêtre l'applique à l'intention ben, que lui demande un des fidèles. Oui. Et là, le prêtre agit à ce moment-là en tant que ministre de l'Église et il obtient donc un fruit spécial pour cette intention propre. Alors là aussi, bien sûr, le fruit peut être mesuré, limité, bien selon, ça dépend des cas, bien sûr, hein, par les dispositions de la personne pour qui il est offert, etc. Bon. Et puis, troisième fruit, disais-je, qui est un fruit plus particulier, alors lui qui n'a plus de valeur, je dirais, proprement cultuelle, oui. Le premier, le fruit général, c'est l'Église. Le deuxième, c'est le prêtre en tant que ministre de l'Église. Et puis, il peut y avoir un autre fruit plus particulier qui est, bien, selon les intentions personnelles du prêtre ou des fidèles qui peuvent prier pour toutes les intentions qu'ils veulent, autres que celles pour laquelle la messe est offerte. Rien n'empêche le prêtre lui-même d'ajouter d'autres intentions, ou bien les fidèles qui sont là, bien sûr, de prier à d'autres intentions, de confier tout cela à l'offrande de notre Seigneur. Bon, il y aura certainement aussi d'autres fruits plus particuliers qui seront obtenus. Oui, c'est ce que nous faisons pendant les mémentos des vivants et des défunts. Eh bien, ma foi, là, le prêtre a un petit moment pour penser, mais il peut très bien offrir la messe à d'autres intentions que celles pour lesquelles on lui a demandé de célébrer cette messe. Bon, il peut prier pour ses parents, pour qui il veut, ça c'est égal, oui. Bon, mais là, c'est à titre plus personnel. Mais alors là, ben, les fruits, ben, ma foi, dépendront, mais toujours pareil, de sa ferveur à lui, peut-être, ou de la ferveur de ceux qui prient, et des dispositions de ceux pour qui on prie, de ceux pour qui on offre. Vous voyez, donc, bien que la messe soit infinie dans sa source, oui, dans son cœur, eh bien, elle est malgré tout finie, limitée dans son application. Oui. Et c'est pourquoi, eh bien, la présence de l'Église au sacrifice de la croix, donc la célébration de la messe, doit être sans cesse réitérée. À cause de ça, justement, à cause de cette faiblesse de la nature humaine, des pauvres pécheurs que nous sommes, la messe ne peut pas obtenir tout son effet d'un seul coup, donc il faut la répéter sans cesse, voilà, pour que les fruits, bien, s'accumulent et finissent, malgré tout, par obtenir leur effet. Et cela, je dirais, cette répétition de la messe est une nécessité. Ce n'est pas une obligation. Je vais vous surprendre peut-être, mais enfin, ce n'est pas une obligation. Le prêtre n'est pas obligé de dire la messe tous les jours. Mais oui, je ne suis pas du tout. Demain, je pourrais quand même me lever à 11h du matin. Et voilà. Bon. Le prêtre n'est tenu de célébrer la messe que quand les fidèles sont tenus d'assister à la messe. On dit le dimanche, ben là, je dois moi-même assister à la messe, non, autant que je la célèbre, hein, c'est pas plus mal. Hein. Donc ces jours-là, je suis tenu de la célébrer, sinon vous n'avez pas d'autre moyen d'assister à la messe, mais en dehors de cela, le prêtre, il est bon qu'il célèbre la messe quelques fois dans l'année. Voilà. Je ne suis pas tenu de célébrer la messe. Ouais. Bon, cela dit, l'Église a toujours encouragé quand même et fortement conseillé à ses prêtres de célébrer la messe quotidiennement, bien sûr. Hein. Mais c'est curieux, ouais, l'Église n'en a jamais fait une obligation, alors qu'elle fait aux prêtres l'obligation de réciter l'office divin tous les jours. Si je ne récite pas l'office tous les jours, je fais un péché mortel. Ouais, bon. Mais si je ne célèbre pas la messe demain, je ne fais aucune faute. Et bon, ça serait peut-être un peu compliqué à vous expliquer le... Difficile parce que... Bon, enfin, non, ne lançons pas dans les explications, ça serait trop long. Ouais. Mais effectivement, et je crois par les temps qui courent en plus, je crois qu'il y a une nécessité de la célébration de la messe, quoi qu'on en dise. Et la messe d'un pauvre prêtre de campagne qui dit la messe tout seul dans sa petite église, ou d'un moine qui dit sa messe tout seul au fond de son monastère, cette messe est aussi nécessaire que la messe, dirait, d'un archevêque dans sa cathédrale. Ça, et ça ne change rien, dirait là. Le nombre des assistants, le décorum, le faste de la messe qui est célébrée ne change rien à la valeur de la messe, rien. Et quand le pape monte à l'autel, sa messe, elle vaut rien de plus que la mienne. Excusez-moi, mais c'est pas lui qui fait la valeur de la messe, c'est pas moi, c'est le Christ qui donne sa valeur à la messe. Ouais. Donc ça n'y change rien. Et tout prêtre, je dirais, surtout par les temps qui courent, je crois, doit avoir au contraire le souci de célébrer la messe tous les jours. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement moins de messes aujourd'hui qu'autrefois, qu'il faudrait plutôt au contraire les multiplier. Mais enfin, il faut être obéissant à la Sainte Église de Dieu. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai été bavard, il y aurait bien des choses encore à dire. Mais...